Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. 4 janvier et déjà sur la corde. À l'école, parents, enfants et enseignants se débattent avec les cas de Covid et le protocole jugé pas clair, à tort ou à raison. Nous allons dans un collège-lycée, l'approviseur avec nous dans un instant. À l'Assemblée, les débats reprennent ce soir après l'interruption surprise sur le pass vaccinal. Pas assez de députés de la majorité cette nuit pour le défendre. L'opposition a obtenu une suspension de séance. C'est ce qu'on appelle un quoi qu'il en coûte. Dans les pharmacies et cabinets de médecins, baisse surprise des commandes de vaccins. Pourquoi cela? Explication. Les hôpitaux continuent de se remplir doucement, près de 20 000 personnes. Alors que nous sommes entrés dans la troisième année de pandémie, même les touristes sur les bateaux ont le bourdon. Les exemples de croisières covidées se multiplient. Dans l'actualité encore, 8 mois après l'horreur du meurtre de Chaynaise, les policiers rendent des comptes. 6 passent aujourd'hui en conseil de discipline. 250 millions d'euros, David Bowie vend son catalogue à la Warner. Djokovic est-il vacciné? Mystère. En tout cas, avant l'Open d'Australie, la Grande Île le laisse entrer sur son territoire. À 13h30, notre invité, c'est le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. La PAC peut-elle être plus verte? Les règles plus efficaces et équitables entre agriculteurs européens et le reste du monde? Où en est la réflexion sur pesticides et herbicides? Voilà quelques questions possibles. Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Et puis à 13h45, c'est Laetitia Casta qui est avec Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Ce mois de janvier met les nerfs de tout le monde à rude épreuve. À l'hôpital, bien sûr, à l'Assemblée, on le verra tout à l'heure. Dans les écoles, collèges et lycées aussi. Cas positifs, cas contacts, absence, quand se faire tester. Les règles pour les enfants et les adultes ne sont pas claires pour tout le monde. Nous allons en reportage dans un instant pour voir comment se passe ce deuxième jour de rentrée. Mais la prise de température se fait parfois aussi de manière inattendue. Le porte-parole du gouvernement était ce matin l'invité du 7-9 de France Inter. Il venait de confirmer que les enfants des soignants continueront d'être accueillis à l'école, même si leur classe devait fermer. Coup de fil d'un auditeur présenté par Nicolas Demorand.
Patrick est au standard. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Monsieur Attal. Voilà, ma compagne est directrice d'école. Elle s'est couchée de très bonne heure hier soir après une journée de rentrée compliquée. Ce matin, elle découvre en écoutant la radio et en prenant sa douche qu'il faut désormais accueillir les enfants de soignants, ce que elle et moi trouvons particulièrement normal. Je comprends l'urgence sanitaire, mais est-ce que vous trouvez que la façon dont sont traités les enfants, les parents et les enseignants actuellement est quelque chose d'acceptable? Retrouver tous ces gens devant l'école ce matin en situation d'essayer de comprendre comment ils vont pouvoir faire aujourd'hui pour gérer les choses en intégrant les nouvelles règles qui ont encore été apprises aux enseignants par l'intermédiaire des médias. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui est quand même assez effarant.
Évidemment que j'entends ce que dit Patrick et son émotion.
Voilà, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement face à un des auditeurs de France Inter ce matin. Alors à l'école, les nouveautés de la rentrée, plus de fermeture de classe systématique, même s'il y a 3-4 Covid chez les enfants. Examen en fonction de la situation, mais 3 tests en 4 jours pour les autres élèves. Retour en classe possible dès le premier test négatif. Pour les adultes, donc les enseignants, isolement plus court s'ils sont positifs. 5 à 7 jours pour les vaccinés, 7 à 10 pour les autres. Pour les vacciner cas contact, pas d'isolement mais des tests. Est-ce clair pour tout le monde? Est-ce l'usine à gaz? Que redoutent les syndicats? Sonia Prassé, vous êtes depuis ce matin à la cité scolaire Paul Valéry, 12e arrondissement de Paris, collège et lycée. Quels échos avez-vous recueillis, Sonia?
Eh bien, les appels des parents n'arrêtent pas depuis hier. C'est le principal adjoint, Ludovic Brunet, qui répond lui-même. Sa secrétaire à le Covid, elle est absente. Et il a toujours sous les yeux une fiche avec les différents cas de figure selon les élèves.
Voilà, une petite fiche du ministère en permanence pour ne pas se perdre avec les plus et les moins de 12 ans. Et pour les plus de 12 ans, vaccinés ou non vaccinés. Toujours vérifier pour donner la bonne information aux parents et à l'élève et bien les guider dans la réalisation de tests ou dans la période d'isolement. Ils sont un peu perdus. Soit ils n'ont pas l'information, soit ils ne la comprennent pas. Il faut un gros travail de réexplication à faire auprès d'eux.
Depuis hier, les rangs sont clairsemés dans les classes, comme le constate Cédric Robert, professeur de français.
Pas mal de cas contacts là, effectivement. Donc on a une augmentation significative, alors notamment au lycée. Là, j'ai une dizaine d'élèves par classe environ, cas contact. La plupart sont en attente de test ou en train de faire le test et on attend du coup voilà qu'ils reviennent petit à petit. Donc on s'adapte comme on peut, donc on fait au cas par cas, mais c'est vrai que ça bouscule un peu cette rentrée-là.
L'objectif est d'éviter au maximum les contaminations. Alors à la cantine, les élèves mangent en quinconce. Mamadou et Gabriella regrettent de ne pas avoir retrouvé tous leurs copains.
Moi, dans ma classe, hier, il y avait 9 personnes qui n'étaient pas là. Parce que je pense, déjà, il y en a, ils avaient le Covid. Et d'autres, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus, mais il y en a, ils sont venus aujourd'hui.
Par exemple, Charlotte, on n'a pas pu la voir hier. Et elle nous manquait un peu.
Pour l'instant, l'équipe du collège et du lycée fait face, mais s'attend à des contaminations en cascade dans les prochains jours.
Sonia Prince est avec Hélène Langlois en direct de cette cité scolaire Paul Valéry, 12e arrondissement de Paris. Nous en retrouvons la proviseure. Bonjour Françoise Turbeau.
Bonjour.
1500 élèves dans cette cité qui regroupe donc collège et lycée. Y a-t-il beaucoup d'enseignants et d'élèves absents, Madame Turbeau?
Alors des enseignants, il y en a peu en fait par rapport à, enfin plus que d'habitude, il y en a à ce jour, on en compte 6 qui sont positifs à la Covid.
Oui.
Après au niveau des élèves contaminés, nous, dans les données qu'on en a, on en a seulement une quarantaine, donc sur 1500 c'est peu, mais vous avez aussi des élèves qui vont être absents une journée parce qu'ils sont cas contact, donc ils sont en attente de leur test PCR ou antigénique. Des choses comme ça, donc ça fait un certain nombre d'absences perlées, en effet, qui vont se dérouler. C'est-à-dire les élèves vont revenir, d'autres vont repartir, etc.
Est-ce que l'ambiance est tendue? On entendait alors à la fois l'auditeur de France Inter ce matin et puis le témoignage de votre collègue à l'instant au micro de Sonia Princé. Mmh. Est-ce que les parents ont du mal à comprendre? À quoi ressemblent vos journées depuis hier?
Donc, évidemment, on est centré et les uns et les autres sur ce sujet. D'abord parce que voilà, c'est quelque chose qui est dans la société tout entière et pas seulement dans l'école.
Oui.
Après, ça fait partie de nos missions d'informer, d'expliquer, donc et de réinformer. Parce que c'est vrai que le protocole, je dirais, est peut-être plus clair que précédemment. Enfin, mais après, c'est au niveau du pass vaccinal complet. Qu'est-ce que ça veut dire pour les moins de 12 ans? Qu'est-ce que ça veut dire pour les moins de 18 ans, etc. Donc vérifier ça, vérifier avec l'état de naissance. Réexpliquer aux parents que non, maintenant les cas contacts intrafamiliales, c'est la même chose que n'importe quel cas contact. Donc il faut faire de la pédagogie, c'est réexpliquer. Donc dans un premier temps, moi j'ai envoyé un mail dimanche à l'ensemble des familles et des élèves d'ailleurs pour avec la petite fiche du gouvernement pour bien expliquer ça. Et puis après on répond donc soit au téléphone, en particulier sur le collège, que disait mon collègue sur le collège, c'est peut-être plus prégnant que sur le lycée. Et ensuite on se sert évidemment des outils, en particulier sur les mails. Les mails sont des bon, enfin il y a de nombreux mails en aller-retour avec les parents pour réexpliquer tout ça.
Vous avez été vous-même bien informé, vous êtes bien informé ou quelquefois vous avez des doutes et est-ce que vous avez été informé tard?
Bah, on a été informé tard, on a été informé ce week-end,
oui.
Mais je vois pas comment on pourrait en être informé d'une façon autrement, puisque c'est des choses qui doivent se prendre au fur et à mesure, qui doivent se décider, qui doivent être rapidement. Enfin, oui. On est dans l'incertitude depuis maintenant presque 2 ans, donc c'est quelque chose qu'il faut que les uns et les autres en intègrent, j'allais dire philosophiquement, enfin en tout cas intellectuellement. Et après, il faut qu'on accepte, qu'on ait cette souplesse-là pour réagir rapidement. Et nous, si vous voulez, enfin au niveau des directions de l'établissement, il faut qu'on soit une balise sur laquelle s'appuyer. Et nous avons ensuite des foires aux questions, soit des documents qui nous sont envoyés du rectorat. Évidemment, ils sont appliqués tout de suite après, mais je ne sais pas comment on pourrait faire autrement.
Est-ce que vous avez des capteurs de CO2? Est-ce que vous en avez en commande qui vont arriver? Comment ça se passe de ce côté-là?
Alors, au niveau des capteurs de CO2, on en a dans la salle des professeurs et dans le restaurant scolaire.
Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce que vous allez en toucher d'autres, si j'ose dire?
Pour l'instant, ce n'est pas prévu.
Est-ce que vous avez besoin d'enseignants remplaçants? Est-ce qu'il y a eu déjà des réunions sur ce sujet?
Ça paraît compliqué actuellement de vous répondre parce que les évictions sont courtes.
Oui.
Donc ce sont donc pour 5 jours ou pour 7 jours, on ne peut pas, enfin je ne vois pas comment on pourrait mettre en place des remplaçants. Par contre, ce qui peut être important, c'est de voir, et là ça va être très compliqué au niveau des enseignants et très lourd, et ça je pense qu'il faut vraiment qu'on en ait bien tous conscience et bien mesurer cette lourdeur-là. Parce que ça sera mettre des devoirs sur les espaces numériques de travail,
oui.
Donner toutes les informations possibles pour éviter qu'il y ait des coupures. Dans l'enseignement.
Encore une question, Madame Turbeau, vous qui dirigez cette cité scolaire Paul Valéry, 12e arrondissement de Paris, à la fois collège et lycée. Je sais que ça affole les fils WhatsApp de parents. Est-ce que vous savez nous dire ce qu'est un cas contact dans votre collège et votre lycée?
Alors, pour moi, je vais être très prudente, hein, mais pardon. Pour moi, un cas contact, c'est quelqu'un qui est resté sans masque avec une personne positive dans les 48 heures qui précédaient, dans un lieu clos pendant un temps quand même certain, c'est-à-dire pas 30 secondes, quoi.
Ça veut dire que dans une classe de quatrième, par exemple, si un élève est positif, tous les autres ne sont pas forcément cas contact.
Bien sûr, dans la mesure où tous les élèves ont leur masque, aucun ne devrait être cas contact, n'est cas contact.
Bon, voilà une réponse qui est claire. Dernière question, est-ce que vous constatez que des enfants, des adolescents, ce qui vous concerne, restent à la maison parce qu'il y a trop de tests à faire et que c'est plus simple de rester à la maison finalement?
Alors, c'est très compliqué puisqu'on est uniquement sur du déclaratif.
Ouais.
Donc, on est obligé de faire confiance. Alors parfois on peut avoir en effet des petits soupçons ou lorsqu'il y a un contrôle et de se dire que tout d'un coup brutalement on a quelqu'un qui va aller se faire tester juste la demi-journée du contrôle important. Donc ça c'est quand même des choses qu'on garde en tête, hein. Et puis on a tous été élèves et tous parents aussi.
Oui.
Donc je crois qu'il ne faut pas non plus être innocent. Mais après on se doit d'être basé sur la confiance puisqu'on est sur du déclaratif.
Oui. Merci.
Donc, faisons-le et jouons la pédagogie, réexpliquer à chaque fois l'importance de rester au lycée et à l'école et au collège le plus possible.
Merci madame d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Un peu de tension dans les écoles, collèges et lycées et des incertitudes à l'Assemblée nationale aussi. La rentrée est rock'n'roll. Le gouvernement, le Conseil d'État, les parlementaires, souvenez-vous, ont travaillé une bonne partie des vacances pour le pass vaccinal, objectif aller le plus vite possible. Entrée en vigueur de ce pass le 15 janvier, hier soir c'était l'examen en séance à l'Assemblée, tout allait bien. Et puis badaboum, passé minuit, demande de suspension de séance de la part de l'opposition. Pas assez de députés de la majorité pour voter en faveur de la poursuite des travaux. Séance interrompue donc et calendrier du premier texte important de l'année remis en cause. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
La conférence des présidents de l'Assemblée se réunit en cette mi-journée pour trouver une solution.
Oui, comment rectifier cet incident de crétin, je reprends l'expression courroucée du ministre Marc Fesneau. Coup de frein au calendrier prévu, mais a priori minime, puisque d'après nos informations, dès 18h, ouais. Après les questions au gouvernement, l'examen du pass va reprendre. Objectif, finir dans la nuit. À l'aube, au plus tard demain après-midi s'il le faut, de manière à ne pas obliger les sénateurs, décalage oblige, à siéger ce week-end après les députés. Le gouvernement reste accroché à sa date du 15 janvier, mais ça nécessite pour cela de bousculer l'agenda parlementaire, de repousser certains débats prévus par d'autres groupes sur d'autres sujets. Cela fait un atterrissage au plus tard le 20, me disait un haut responsable de la majorité, car il faut aussi tenir compte d'une saisine retardée du Conseil constitutionnel avant de pouvoir promulguer.
Alors à propos de la suspension de cette nuit, la majorité pointe la volonté d'obstruction de l'opposition, une amicale RN, LFI, LR de l'irresponsabilité, dit Gabriel Attal. Mais c'est d'abord parce qu'on manquait de députés en marche que la séance a été suspendue. Que s'est-il passé, Yael ?
Oui, la majorité était minoritaire au moment du vote à main levée, vote organisé par la présidente de séance Annie Genevard, députée LR, rappelons-le, ça explique aussi la manœuvre, laquelle remplaçait au pied levé un Richard Ferrand absent car covidé. L'info n'est clairement pas redescendue assez vite auprès des députés LREM parce que pour tous, il était acquis qu'on irait au bout de la nuit. Des oppositions habiles et liguées et puis un manque de vigilance de la part du président de groupe Christophe Castaner avec circonstances atténuantes, précise son adjointe Aurore Berger.
Au moment d'une reprise avec une suspension de séance sur un vote qui n'aurait même pas dû exister puisqu'il avait toujours été prévu qu'on continue la séance. Donc encore une fois, faire des espèces de coups du rideau, on fait rappliquer et sortir de leur lit des députés de l'opposition en disant attention, on peut peut-être essayer de faire un coup en étant 5 de plus, etc. Mais c'est quoi ce niveau ? Enfin, je vois d'autant moins à quoi ça sert quand c'est instrumentalisé et mis en œuvre par des députés LR qui, normalement, sont pour le texte.
Alors, au-delà du coup politique, Bruno, trois remarques. Un, le gouvernement avait mal calibré son timing à un rythme de 20 amendements par heure, alors qu'il en restait 550 à examiner. Une nuit n'aurait de toute façon pas suffi. Deux, pas de séance après minuit, c'est dans le nouveau règlement, écrit par qui ? Par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Et trois, les votes ont toujours été hyper serrés quand les libertés sont en jeu. À l'automne, le pass sanitaire est passé à une voix près. Certains y verront un petit jeu politicien sans lendemain, d'autres la réaffirmation symbolique d'un Parlement toujours vivant.
Et donc les débats qui reprennent à 18h ce soir, nous dites-vous. Pendant ce temps, la pression monte sur l'hôpital. Plus de 2000 personnes supplémentaires sont entrées à l'hôpital ces dernières 24 heures en France. On approche des 20 000, dont 3 700 en soins critiques. Autre curiosité du jour. La baisse de commandes de vaccins de la part des médecins et pharmaciens, alors même que le ministre de la Santé fixe un objectif très élevé pour la campagne de rappel, 5 millions d'injections par semaine. Bonjour Anne Orenstein.
Bonjour Bruno.
Pourquoi cette baisse de commandes?
Mais il y a un mélange de fatigue, de lassitude et de contrariété. D'abord, il faut savoir que les commandes, que ce soit pour les pharmaciens ou les médecins de ville, se font seulement les lundis et mardis. C'est hier soir que la Direction Générale de la Santé a remarqué cette baisse de 27% des commandes. Or, hier, ça a été une journée particulièrement lourde pour les pharmaciens. Pas sur la vaccination, sur les tests antigéniques à tout va. Après 2 jours de fermeture, les bras ne se multiplient pas et les commandes ne sont pas la priorité du moment. Sans compter cette petite contrariété d'il y a une semaine. L'autorisation de la vente des autotests en grande surface, en GMS. Gilles Bonnefond est le porte-parole de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
Quand vous avez une profession qui est fatiguée, de donner à la GMS la possibilité de communiquer en disant que maintenant ils vont avoir en plus des autotests, bientôt les médicaments, etc. C'est quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On est fatigué, vous nous demandez encore d'accélérer. Mais à un moment, il faut renvoyer des signaux de reconnaissance.
Les pharmaciens dénoncent aussi une différence de paiement entre les médecins et eux pour le même acte vaccinal. 7,90 € au lieu de 9,60 €. Un mouvement d'humeur qui tombe mal pour les autorités sanitaires alors que les pharmaciens effectuent 60% des vaccinations de ville.
Merci Anne Orenstein. Les bras ne se multiplient pas, disiez-vous. Les syndicats de pharmaciens revendiquent la réalisation de près d'1 million de tests chaque jour. Et en effet, il en faut des bras pour les réaliser, tous ces tests. Et certaines officines font appel à des étudiants en santé, mais eh bien, les volontaires ne sont pas légion. Reportage d'Agera Mohamed dans une pharmacie de Boulogne-Billancourt.
Je vous laisse mettre le masque bien sur la bouche, un petit peu plus haut. Voilà, super, vous regardez bien en face de vous, vous respirez bien et on y va.
Thomas fait partie de ces jeunes qui ont décidé de venir en renfort. Une question de principe pour cet étudiant en médecine.
Je ressens quand même le besoin de venir aider en sachant que avec tous les cas qui augmentent et les pharmacies qui ont du mal à trouver du personnel. Donc du coup, c'est une question de principe bien sûr, c'est naturel. Après, c'est aussi au niveau financier, on est étudiant, donc forcément quand on travaille, on essaie de se faire un petit peu de sous à côté du coup.
Pour Clément, le pharmacien, c'est un renfort inespéré et indispensable.
Aujourd'hui, nous, on réalise à la pharmacie 800 tests antigéniques par jour en moyenne et on fait plus de 200 vaccinations par jour. Et donc sans ces étudiants en renfort, je pourrais pas du tout le faire.
Et les étudiants en santé se font rares.
Jean-Baptiste Achard, je suis le fondateur de l'application StaffMe.
StaffMe, c'est une plateforme de mise en relation entre étudiants en santé et pharmacie.
Habituellement, les prestations de dépistage Covid étaient autour de 20 € de l'heure pour la personne qui travaille. Et elles sont passées aujourd'hui à une moyenne de 28 €. Et malgré cette revalorisation, on a toujours du mal à trouver des étudiants en santé disponibles pour effectuer ces tests de dépistage. Parce que ces étudiants ils sont en période de partiel. La deuxième raison, c'est aussi parce que justement, ils sont cas contact ou ils ont été infectés par le Covid.
Actuellement, la plateforme StaffMe recense 600 offres de prestations en pharmacie et à peine la moitié d'entre elles sont pourvues.
À l'étranger, la vague Omicron donne des records de contamination aux États-Unis, en particulier plus d'1 million de nouveaux cas pour la seule journée d'hier aux États-Unis. Et puis, bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Comme un goût de début de pandémie, les cas de croisières touristiques Covidées se multiplient.
Oui, c'est une hécatombe. Au moins 45 passagers d'un navire MSC Croisière testés positifs à Gênes en Italie. Le bateau était parti peu de temps avant de Marseille. Ils ont été renvoyés chez eux. Les voyageurs négatifs ont eux continué leurs vacances à bord. Ce n'est pas le cas des 3000 passagers d'un autre bateau de la compagnie allemande AIDA débarqué à Lisbonne alors qu'il devait naviguer vers les îles Canaries. À bord, 68 cas positifs, dont 60 membres d'équipage. Et puis, il y a le Brésil qui a fait le choix de suspendre les croisières. Une décision qui suit une recommandation des autorités de santé américaines qui ont compté plus de 90 bateaux cluster dans le monde et qui demandent aux vacanciers, vaccinés ou non, d'éviter les croisières. Réponse des croisiéristes, plus on teste et plus on trouve. Et les bateaux font partie des espaces les plus contrôlés au monde.
En Allemagne, les mesures de restriction n'empêchent pas la décrue du taux de chômage. Elle continue 5,2% pour le taux au mois de décembre. En France, l'inflation reste élevée, 2,8% sur un an au mois de décembre également.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Nous sommes le 4 janvier, il y a déjà eu 3 féminicides en France depuis le début de l'année. Malgré les mesures prises au fil des mois, ces horreurs continuent. Et aujourd'hui, des policiers rendent des comptes 8 mois après le meurtre particulièrement barbare de Chaynaise, brûlée vive à Mérignac près de Bordeaux en mai dernier. 6 policiers sont convoqués devant des conseils de discipline à Bordeaux et Paris, 2 en Gironde, 4 dans la capitale. Chaynaise Daoud était séparée de son ex-conjoint. Il avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. Elle avait déposé plainte 2 mois avant d'être tuée. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Emmanuel, vous êtes en direct du quartier de Bercy où sont convoqués les 4 policiers pour le conseil de discipline parisien.
Oui, là où sont auditionnés les officiers, dont certains par visioconférence depuis maintenant près de 3 heures. 3 heures, c'était d'abord les commissaires, le patron actuel de la Sûreté départementale et le chef du commissariat de Mérignac. Il leur est reproché de ne pas avoir prévenu le cabinet du ministre quand ils ont su, après la tragédie, que le policier qui avait pris la plainte initiale de la victime 2 mois plus tôt était lui-même sous le coup d'une procédure pour violence conjugale. Et puis cet après-midi, ce sera un commandant et une capitaine à l'époque des faits. Ce sont eux qui ont géré l'enquête qui n'aura duré en réalité que 7 jours. Ils vont devoir s'expliquer sur l'absence de géolocalisation du suspect fin mars 2021, alors qu'ils avaient tous les éléments nécessaires, et pourquoi ils n'ont pas jugé bon de saisir un groupe d'enquête plus solide au niveau départemental. En parallèle à Bordeaux, 2 gardiens de la paix étaient convoqués, un seul a pu s'y rendre, une brigadière a fait savoir qu'elle était malade. Les conseils de discipline du jour proposeront ensuite d'éventuelles sanctions transmises à la Direction générale de la police nationale et c'est elle qui validera ou non.
Emmanuel Leclerc en direct du quartier de Bercy à Paris avec Lucien Lefebvre pour les moyens techniques de France Inter. Et la rubrique police-justice raconte aussi l'impact de la pandémie sur le fonctionnement des tribunaux. La cour d'assises de Paris se penche aujourd'hui sur un braquage qui date d'il y a plus de 6 ans. Attaque du joaillier Chopard, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, 1 million d'euros de butin à l'époque. 10 accusés, également poursuivis pour un autre braquage chez Chanel, 2 mois plus tard, 2 millions de butin. Le procès a déjà été reporté une fois à cause du Covid. Cette fois, il a lieu, mais 2 accusés seront jugés plus tard parce qu'ils sont contaminés, Mathilde Vinceneux.
La bande ne sera pas jugée au complet. Les 2 chaises détestées positives resteront vides. Nous avons perdu quelques accusés en cours de route, précise la présidente à l'ouverture des débats. Les jurés devront donc composer sans avoir toutes les pièces du puzzle, sans entendre ni voir tous les hommes accusés d'avoir participé à ces 2 braquages. Mais difficile de repousser encore l'échéance pour la cour. Un accusé attend depuis 5 ans et demi en prison d'être jugé pour cette affaire. Il est le seul à être en détention provisoire. Dans le box aujourd'hui, il se tient courbé, il n'en peut plus, il est à cran, glisse son avocat. L'an dernier déjà, lorsqu'un cas avait été déclaré au bout de 3 jours de procès, il avait dû retourner en prison pour plus d'un an. La crainte désormais, c'est que ce scénario se répète. L'audience doit durer près de 3 semaines.
C'est une confirmation, le fabricant de chariots de supermarché Caddy est placé en redressement judiciaire. Il s'était placé hier en cessation de paiement. Il a 1 mois et demi pour trouver un repreneur. 140 emplois sont en jeu en Alsace. Une histoire digne de Don Camillo à présent. À cette différence près que le maire du village n'est pas communiste comme dans la série, mais LR. Ça se passe à Resson-sur-Mat, 1700 habitants dans l'Oise. Le presbytère appartient à la mairie. Le loyer est ridiculement bas, 590 euros par an pour 300 mètres carrés. L'administration fiscale s'en est mêlée. Le maire a demandé une hausse de loyer. Mais Julien Morcellet, le curé qui a l'air d'être très bon négociateur, a gagné le bras de fer.
Tout commence au mois d'octobre, lorsque le maire Alain de Parmentier fait voter une augmentation du loyer de ce presbytère, cette grande maison de briques rouges, sur les conseils du Trésor public. On passe, vous l'avez dit, de 590 euros par an à presque 6 000, ce qui provoque un tollé dans la paroisse, l'abbé Philippe Montier.
600 euros par mois et 600 euros par an, ça n'a rien à voir. Et par conséquent, pour nous, c'était invivable et intenable de tenir ça avec les finances paroissiales. Selon la loi de séparation des églises et de l'État, la commune est chargée de loger le curé. Donc voilà, c'est pas un cadeau, c'est la loi, simplement la loi.
Et la polémique enfle. Le 30 octobre, le curé s'en prend au maire sur Facebook, l'accusant, je cite, d'assassiner financièrement sa paroisse. Dans la presse locale, le maire dit ensuite avoir reçu des menaces.
Il dit qu'il a reçu une lettre avec les tampons de la paroisse. Vous croyez que c'est moi qui ai écrit avec les tampons de la paroisse, que je suis assez stupide pour ça? Moi aussi, je reçois des choses qui sont parfois déroutantes, mais ça fait partie de la mission que d'être personne publique et puis de payer les conséquences de nos décisions, ça c'est clair.
Cette lettre, le maire l'avait évoquée dans le courrier Picard. Contacté ce matin, il ne souhaite plus en parler. Finalement, le conseil municipal a bien voté le mois dernier une augmentation du loyer de 10 euros par an.
Et voici à présent une tendance qui se confirme dans l'industrie musicale. Là aussi, les questions d'argent, mais il y en a beaucoup plus. Les artistes vendent les droits de leur catalogue. La liste des énormes stars qui font ainsi la culbute vient de s'allonger. Mathieu Culeron, le grand David Bowie, vient de vendre ses tubes à Warner Music pour 250 millions de dollars.
Juste avant cette vente posthume des tubes de Bowie, c'est Neil Young qui avait vendu la moitié des droits de son catalogue au fonds d'investissement Ignosis pour une somme évaluée à 150 millions de dollars. Puis, début décembre, c'est Universal Music qui déboursait 300 millions pour les droits des chansons de Bob Dylan. Enfin, Sony Music s'offrait tout Bruce Springsteen pour la somme folle d'un demi-milliard de dollars. Des droits qui permettent ensuite à ceux qui les détiennent de les vendre à prix d'or pour illustrer des publicités, des films ou des défilés de mode. L'histoire la plus célèbre étant le fameux rachat des droits des Beatles dans le dos de Paul McCartney par Michael Jackson, alors que c'est Paul qui avait interpellé le roi de la pop sur l'importance de la gestion des droits. Mais dans ce domaine, le vrai visionnaire demeure David Bowie, qui avait prévu le streaming et mis en vente des obligations en 1997 sur sa propre musique, des Bowie Bonds qui permettaient aux investisseurs de spéculer sur sa musique à venir. Le voici vendu pour plusieurs centaines de millions. Indépendant de nature, il n'est pas certain qu'il aurait validé lui-même cette transaction.
Alors, qui sont les artistes les plus chers de l'histoire? Mathieu Culeron nous a donné pas mal d'éléments. Vous en trouverez d'autres sur franceinter.fr en infographie. À propos de stars, y aurait-il une exception dans les mesures anti-Covid pour la star numéro 1 du tennis? Le premier tournoi du Grand Chelem, l'Open d'Australie, commence dans moins de deux semaines, 17 janvier. Novak Djokovic n'a jamais précisé s'il était vacciné, ce qui est de rigueur pour entrer en Australie. Eh bien, Adel Belloumri, tout indique qu'il va participer au tournoi.
Oui, et il s'est chargé lui-même d'annoncer la nouvelle sur son compte Instagram ce matin, avec une photo où on le voit tout sourire sur un tarmac avec un sac de raquettes, prêt à décoller vers l'Australie. Et ce texte, « Je suis prêt à vivre et à respirer le tennis pour les deux prochaines semaines, direction l'Australie avec une autorisation d'exemption », autrement dit une dérogation. Et oui, parce que Novak Djokovic n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal. Depuis plusieurs semaines, il laissait planer le doute en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner pour rentrer en Australie. La Fédération australienne de tennis confirme qu'une dérogation médicale a été octroyée après un examen rigoureux. Voilà Djokovic en route pour Melbourne où il pourra tenter de réaliser son rêve, atteindre les 21 titres du Grand Chelem et ainsi dépasser Roger Federer et Rafael Nadal.
Du tennis au football, 21h ce soir, le dernier 16e de finale de la Coupe de France lance Lille. Hier, le PSG a battu Vannes 4-0. Tirage au sort des 8e de finale ce soir. Dans un instant, la météo.
Au terme d'Amélie-les-Bains, sous le soleil du Roussillon, nous prenons soin de vos articulations, de votre dos, de vos poumons, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
Notre première rencontre, c'était sur le quai d'une gare.
J'ai croisé ton regard.
Et tu m'as embrassé.
Mais non, c'était sur Disons Demain, bien sûr.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. On va sur Disons Demain. Provoquer le destin sur Disons Demain et rencontrer des célibataires de plus de 50 ans.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le temps est perturbé mais plutôt doux.
Oui, avec de bonnes pluies qui arrosent les régions allant de l'Aquitaine vers le Berry et le Nord-Est cet après-midi. Toujours du vent, parfois jusqu'à 80 à 90 km à l'heure du côté des Vosges notamment. Sur le Nord-Ouest, la région parisienne, l'Orléanais et le Nord de la Seine, là ça devient plus changeant. Quelques averses tout de même, plus fréquentes de la Normandie au Nord-Pas-de-Calais. On a quelques éclaircies qui se dessinent, un petit peu plus belles vers l'ouest de la Bretagne. Du vent de Nord-Nord-Ouest jusqu'à 70 km à l'heure sur les côtes. De l'Occitanie vers le Lyonnais et les Alpes, là le soleil est parfois voilé, mais c'est souvent gris sur le littoral du Roussillon jusqu'à la Côte d'Azur et jusqu'en moyenne vallée du Rhône. Les températures, elles amorcent une petite baisse au nord. Ça reste quand même assez agréable avec 8 à 11 degrés le plus souvent sur la moitié nord. Et sur la moitié sud jusqu'à la plaine d'Alsace, encore 13 à 18 degrés. Et puis demain, changement de temps, Bruno, ce sera ensoleillé mais aussi plus froid.
Elodie Calac, Météo France. Tout de suite l'invité du 13-14, le ministre de l'Agriculture.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
S'il est un domaine où l'Union européenne pèse lourd dans la vie quotidienne de millions de personnes, c'est bien celui de l'agriculture. La politique agricole commune pèse à elle seule un tiers du budget de l'Union. La nouvelle PAC pour les années 2023-2027 sera en discussion toute l'année. Le cadre européen a été fixé. À chaque pays maintenant de définir son plan stratégique national. Cela tombe au moment où la France, première bénéficiaire de la PAC, prend la présidence du Conseil de l'Union européenne. Elle aura un rôle clé dans l'organisation des différentes réunions des ministres européens, de l'agriculture notamment. Alors quelles orientations? Quel rôle la nouvelle PAC va-t-elle jouer dans la transition vers une agriculture plus verte? La Cour des comptes et l'autorité environnementale jugent les objectifs pas assez ambitieux à ce stade. La toile de fond, c'est aussi le recensement agricole décennal paru récemment. La France a perdu en 10 ans 100 000 exploitations. Les agriculteurs vieillissent. Chaque année un peu plus, la question du renouvellement des générations devient cruciale. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à notre invité jusqu'à 13h45, le ministre de l'Agriculture. Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
Avant de parler agriculture, parlons politique. Vous qui suivez ça de très près, ce débat suspendu la nuit dernière à l'Assemblée. Faute de députés En Marche en nombre suffisant, comment expliquer que sur un texte aussi important, on ait manqué de députés dans la majorité, Julien de Normandie?
Non, je crois surtout que ce que nous avons vu cette nuit, c'est la preuve de l'incapacité de Valérie Pécresse de gouverner le pays. C'est la preuve que Valérie Pécresse est la candidate de l'incohérence. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une candidate à la présidence de la République qui, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les radios, ne cesse de dire qu'elle est pour le pass vaccinal. Elle ne cesse de le dire. Mais elle n'est absolument pas capable de tenir ses troupes. Hier, songez que vous avez 34 députés des Républicains qui ont voté contre le pass vaccinal, dont son porte-parole. Et vous n'avez que 4 députés les Républicains qui ont voté en faveur du pass vaccinal. Et donc je crois que depuis ce matin, le débat n'est pas du tout porté au bon endroit. La question n'est pas du tout de savoir si...
Pas d'examen de conscience du côté des marcheurs.
Qu'est-ce qui s'est
sur
passé?
Sur un texte important, on manquait de députés, il n'y a pas d'examen de conscience de votre côté.
Il s'est passé ce qu'on appelle le coup du rideau. Ça veut dire quoi le coup du rideau? Ça veut dire que tout d'un coup, à un moment du vote, vous aviez des parlementaires cachés derrière le rideau, comme on dit, qui est l'entrée de l'Assemblée, de l'hémicycle, qui tout d'un coup débarquent...
Un classique de la vie parlementaire.
Un classique de la vie parlementaire, mais un classique qui, permettez-moi de vous le dire, est quand même assez cynique, voire totalement irresponsable, quand il s'agit de faire un tel classique pour arrêter la discussion d'un projet de loi aussi important. Parce qu'au même moment, hier soir, à minuit, il y avait énormément de soignants qui, à l'hôpital, travaillaient dans les urgences et l'ont fait toute la nuit. Et donc, quelle irresponsabilité, quel cynisme. Mais surtout, il faut en tirer une conclusion. C'est que cette candidate à la présidence de la République française, c'est la candidate de l'incohérence. Bon, n'est pas capable de tenir ses troupes. Elle n'est pas capable de concilier les positions d'un Éric Ciotti totalement droitisé de la manière la plus radicale possible et de ses troupes quand vous voyez que même son porte-parole vote contre le pass vaccinal.
J'imagine qu'il y a eu quelques mots pour les députés En Marche qui n'étaient pas là quand même.
Mais encore une fois, ce coup de... tous les amendements importants ont bien été votés. La majorité était présente. Mais quand vous avez ce coup du rideau, c'est-à-dire que tout d'un coup, sur un vote, vous avez des dizaines de députés, ou en tout cas une majorité de députés qui arrivent, qui débarquent pour faire ce coup du rideau, qui est effectivement un classique, mais qui peut s'attendre à avoir un tel cynisme au moment où il s'agit de discuter un texte aussi important pour les Français, qui est le texte sur le pass vaccinal. Et donc la nuit qui s'est passée en dit long, et d'ailleurs je note que depuis ce matin, Valérie Pécresse et les Républicains ne savent plus où se mettre, ne savent pas expliquer comment cela a été possible, outre leur alliance avec le Rassemblement National ou la France Insoumise sur ce sujet. Cette incohérence qui a été montrée, elle est absolument criante, et je crois que tout le monde doit bien le voir, parce que c'est assez tragique, objectivement.
Allez, parlons agriculture, monsieur le ministre. Un sujet clé pour les agriculteurs et consommateurs français, les distorsions de concurrence entre les pays de l'Union européenne et le reste du monde, l'utilisation de farine animale ou d'antibiotiques, par exemple, dans l'élevage, puisque la France prend la tête du Conseil des ministres européens. Est-ce qu'elle est prête à lutter contre ces distorsions de concurrence? Un exemple concret, est-ce que la France est prête à bloquer l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur?
Oui, et d'ailleurs, c'est une position du président de la République. La France dit non à cet accord avec le Mercosur. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que ces pays du Mercosur, donc du continent sud-américain, utilisent beaucoup la déforestation pour faire leur propre agriculture. Coupent les arbres pour mettre de l'agriculture. Qui peut accepter aujourd'hui qu'un accord favorise l'importation de produits issus de la déforestation? C'est un non-sens. notamment environnementales. Donc la France, oui, s'oppose et continuera à s'opposer à cet accord avec le Mercosur. Mais moi, je souhaite aller encore plus loin. Aujourd'hui, il y a un débat de fond qui est très intéressant et qui est très important. On continue à importer en Europe des produits qui ne pourraient pas être fabriqués en Europe. Pourquoi ? Par exemple, dans l'agriculture, on continue à importer des viandes utilisant ce qu'on appelle des antibiotiques de croissance. On donne à des animaux, en dehors de l'Europe, des antibiotiques tout au long de leur vie pour être sûr que jamais ils n'attrapent de maladies et doper leur croissance. En France et en Europe, ça fait 10 ans qu'on les a interdits.
Alors comment on empêche ça ?
On continue à les importer. Et ben ça, c'est un des objectifs de la présidence française de l'Union européenne, de mettre en place ce qu'on appelle des clauses miroirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les normes de production qu'on a fixées à nos agricultures en Europe, elles doivent s'imposer aux autres États qui souhaitent nous vendre leurs propres produits alimentaires. Ce sont des clauses miroirs.
Et une partie de nos partenaires européens, pour lesquels l'agriculture est moins importante, vont s'y opposer au nom, par exemple, du pouvoir d'achat, parce que ça aboutit à des produits moins chers.
Non, vous aviez...
Et donc, on n'obtiendra pas l'unanimité sur des questions pareilles.
Vous avez raison de souligner que tous les pays européens ne sont pas aussi allants que la France. Maintenant, les choses sont en train de changer. Il y a une vraie dynamique politique qui est en train de se créer. Ces clauses miroirs, cette opposition au Mercosur, c'est ce qu'on appelle la réciprocité des normes. Il y a quelques années, c'était impossible de parler réciprocité, parce que vous aviez des pays en Europe très libéraux qui étaient contre et qui se disaient « si on met ça, on pourra plus exporter ». Aujourd'hui, les choses changent, et notamment les dernières élections en Allemagne vont permettre de faire changer les choses encore plus rapidement, parce que l'Allemagne, qui souvent a eu une position très libérale, aujourd'hui le nouveau gouvernement allemand est moins sur ces positions-là. Donc on a un vrai momentum politique
et l'objectif
pour pousser
du coup,
cela.
L'objectif du coup, Julien de Normandie, c'est quoi ? C'est que ce soit gravé dans le marbre européen à la fin de la présidence française ?
C'est exactement cela, avec des sujets très concrets. Je vous ai donné l'exemple de ces clauses miroirs sur les produits utilisant des antibiotiques de croissance. Je pourrais vous donner un autre exemple, c'est comment on fait en sorte d'avoir des normes à l'importation de produits pour lutter contre tout produit qui serait fait et qui serait issu de la déforestation. C'est une grande stratégie que la France met sur la table justement de la présidence là maintenant.
Objectif, avoir avancé d'ici à 6 mois.
Lutter contre cette déforestation importée et de manière plus générale de revoir ces normes du commerce international. Et donc oui, il y a des sujets très concrets sur lesquels on va pouvoir avancer et ce sera notamment le rôle des ministres de l'Agriculture et de l'Alimentation que de les imposer, c'est-à-dire de créer ce momentum politique et d'avancer sur ces sujets aussi concrets que je viens d'indiquer.
Beaucoup de questions sur la PAC, Julien de Normandie. Au standard, rappelons que la PAC, c'est 60 milliards chaque année, dont 9,5 pour la France, qui est la première bénéficiaire. Il appelle de Charlotte au standard. Bonjour Charlotte.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie, je vous présente en un mot. Vous êtes éleveuse de vaches laitières bio, c'est bien cela ?
Tout à fait.
Et la question, c'est comment faire une PAC plus verte ? Allez-y.
Et on est deux associés sur la ferme.
Oui.
J'ai bien aimé comment Monsieur Duvic vous aviez introduit les choses et résumé brièvement les choses, mais c'est très important, c'est que on a fait évoluer l'agriculture en France vers justement plus de transition agroécologique. Nous, on est deux associés et justement, on a fait évoluer notre ferme dans ce sens-là. On touche aujourd'hui de l'argent de la PAC pour les efforts qu'on fait sur notre ferme, sauf que à l'échelle de l'ensemble de la distribution du budget de la PAC en France, on est vraiment oublié. Nous aussi, on est oubliés. Par rapport à mes collègues qui ont plus de surface, parce que c'est quand même l'argent de la PAC est aussi d'abord distribué par rapport à la surface qu'on a, nous, à l'échelle de notre ferme, on a à peu près 15 000 euros de moins que nos voisins. On est très inquiet pour la prochaine programmation qui aujourd'hui va pas du tout dans le sens de soutenir ceux qui ont été vers une agriculture comme ça.
Alors Charlotte, restez avec nous si vous le voulez bien. On va entendre la première réponse de Julien de Normandie. Le reproche qui est fait à la PAC et à notamment la stratégie nationale française, c'est encore des aides en fonction de la taille et donc les petites exploitations bio vont pas toucher assez d'aides.
Alors, si on prend le cas particulier de la bio, il s'avère que l'aide à la bio est l'un des postes de la politique agricole commune qui augmente le plus. On va les augmenter de 30%.
Parce qu'on partait de bas.
Non. On passe de 250 millions d'euros par an à 340 millions d'euros. Pourquoi on fait ça ? Parce que notamment, on estime aujourd'hui qu'il faut continuer à convertir de plus en plus d'exploitations vers le bio. Et donc, on renforce ce qu'on appelle l'aide à la conversion. Parallèlement à ça, ce qu'on voit notamment sur le bio, et donc ça on le fait très fort dans la politique agricole commune, mais parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on voit sur le bio et notamment sur le lait bio pour répondre à l'auditrice
Charlotte qui est en Ille-et-Vilaine.
Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le lait bio ? C'est que on produit plus de lait bio en France que les consommateurs n'en achètent. Et ça, ça doit nous interroger. Alors nous, on doit prendre nos responsabilités en tant que gouvernement pour aider. Et notamment, il y a quelques jours, les parlementaires ont voté un crédit d'impôt renforcé pour les exploitations qui font du bio. Un crédit d'impôt qui va passer à 4500 euros par an, en plus des aides de la PAC, pour pouvoir renforcer l'aide aux producteurs de bio. Mais ça doit nous interroger, nous aussi, en tant que consommateurs. Parce qu'en tant que consommateurs, si on fait un test auprès des auditeurs, tout le monde dit « on veut plus de transition environnementale ». Que ce soit du bio, que ce soit de la haute valeur environnementale. Bref, on veut de plus en plus de produits de qualité.
Mais au moment de passer à la caisse, on est plus réticent.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on est citoyen de bon matin, mais consommateur passé le quart d'heure. Et donc, sur le lait bio, c'est très caractéristique. En ce moment, on produit plus de lait bio que les consommateurs n'en achètent. Et donc moi, j'en appelle vraiment à tous les consommateurs. Faisons le choix des productions françaises, de ces productions de qualité bio, HVE, ou sous signe de qualité...
Haute valeur environnementale.
Ou sous signe de qualité comme les labels rouges, etc.
Charlotte,
et ça, il faut absolument le faire. On a un rôle à jouer en tant que consommateur.
En un mot, est-ce que vous avez du mal à écouler votre production ?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je ne vends pas toute seule. Je fais partie on est quand même à 33% à peu près de la production laitière bio française, hein, c'est Biolay. Et donc, nous, on est la variable d'ajustement chez Biolay parce qu'en fait, comme il y a une baisse de la consommation de lait bio, eh ben, nous, on trouve plus d'acheteurs et à des prix, convenables. Donc, c'est nous qui avons la répercussion sur notre ferme. Et moi, c'est 20 000 euros sur ma ferme en moins cette année. Et c'est moi et mon associé qui allons devoir rendre des comptes à nos fournisseurs sur comment on va faire pour payer nos factures. Et quand monsieur de Normandie répond, il ne répond pas parce qu'il a bien dit, on va donner plus d'argent à ceux qui vont aller vers la conversion. Mais ceux qui y sont déjà, comment est-ce qu'on va continuer à la soutenir ? Et haute valeur environnementale, tout ça, c'est des nouveaux cahiers des charges qu'on va amener en plus pour aider ceux qui n'avaient pas forcément commencé à faire des efforts.
Et qui se passent à la conversion,
donc,
bien.
On noie le poisson et qui ont déjà des aides à l'hectare. Enfin, il ne faut pas oublier tout ça non plus. Hein. Enfin, après, c'est très technique.
On va laisser Julien de Normandie vous répondre parce que j'ai compris le principe général et je pense les auditeurs aussi. Merci Charlotte.
On a vraiment, comme le dit Charlotte, deux objectifs à la fois. Convertir plus de personnes. Je crois que c'est très important. Quand vous voyez, par exemple, dans les fruits...
Mais elle dit, ceux qui y sont déjà, on n'est pas assez aidés.
Mais comme vous voyez dans les fruits et légumes, par exemple, dans les fruits et légumes bio, c'est l'inverse du lait bio, on importe 30%. Donc, il faut convertir plus. Maintenant, il y a d'autres secteurs, comme le lait bio, où on produit plus que les consommateurs ne consomment. Et donc là, c'est ça, le crédit d'impôt que j'évoquais. Le crédit d'impôt, il est destiné à qui ? Il est destiné à ceux qui sont aujourd'hui installés en bio, pour faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui installés en bio puissent avoir ce coup de pouce par le crédit d'impôt qu'on a renforcé pour le porter à 4500 euros et le prolonger sur la durée. Mais Charlotte l'a
très
bien dit.
En un mot, parce que je voudrais qu'on prenne une autre auditrice.
Charlotte l'a très bien dit. Aujourd'hui, on n'écoule pas toute la production. Et donc, je le redis, quand on a tous les débats sur les prix des aliments et l'inflation, n'oublions jamais que quand on achète un aliment, posons-nous la question d'où il vient, parce que si on veut aider Charlotte et tous les agriculteurs français qui font un boulot d'extrême qualité, eh bien, si on achète du poulet ukrainien, du poulet brésilien et pas du poulet français, ou des produits importés qui parfois sont moins chers mais de bien moindre qualité, eh bien, on ne développe pas notre propre agriculture. Donc, il faut absolument, dès qu'on en a la possibilité, faire ce choix de nos productions territoriales.
Madeleine au standard, bonjour Madeleine, tout autre sujet.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour les auditeurs. Voilà, nous constatons actuellement une pollution importante des captages d'eau potable par des pesticides dans ma région, mais dans toute la France. Un pesticide comme le métolachlore, qui est suspecté d'être perturbateur endocrinien dangereux pour la santé. Or, actuellement, l'utilisation des pesticides en France est en augmentation de 20% depuis ces 10 dernières années. Alors, et on vient d'entendre une agricultrice bio qui a de la peine à vivre. Et on entend le même son vers chez nous. Alors, quelle action allez-vous mettre en place pour protéger des pesticides, des aires d'alimentation, des captages d'eau potable qui coûtent, parce que c'est des pollutions, coûtent des fortunes.
Julien de Normandie, on va laisser le ministre vous répondre.
Plusieurs choses. D'abord, je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous avez donnés, Madeleine. Et quelle est la réalité aujourd'hui ? Depuis 2017, on a par exemple, en France, doublé, je dis bien doublé, la surface de bio. On a, par exemple, en 3 ans, multiplié par 20 je dis bien par 20, le nombre d'exploitations dites de haute valeur environnementale. Les substances, les molécules les plus préoccupantes, on les a réduites de 93% depuis 2017. Ce qu'on appelle les CMR1. Celles qui sont un peu moins préoccupantes, mais préoccupantes, on les a réduites de 48%. Pourquoi je dis ça? D'abord parce que la transition, elle est là. Et il faut le dire parce que nos agriculteurs se sont fortement engagés. Il faut leur exprimer notre gratitude vis-à-vis de ces engagements. Et deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans nos agricultures pour leur permettre de mettre en place des méthodes et des pratiques culturales qui permettent de sortir d'un certain nombre d'impasses, comme vous l'avez dit. Et ça, c'est notre rôle, nous, pouvoir public, d'investir aux côtés des agriculteurs. On le fait, par exemple, avec France 2030, où on va investir près de 3 milliards d'euros dans ces ensembles de modernisation de nos agricultures, dans cette troisième révolution agricole, comme j'aime à la définir, celle du vivant et de la connaissance. C'est par l'investissement qu'on pourra aller encore plus vite dans cette transition.
En un mot, vraiment, s'il vous plaît, en un mot, le glyphosate, les industriels demandent d'ores et déjà la prolongation de l'autorisation qui s'achève théoriquement à la fin de l'année. Quelle sera la position de la France, oui ou non, à une prolongation?
La position de la France a toujours été très claire, c'est de dire dès lors qu'il y a des alternatives, c'est-à-dire des alternatives
et là, il y en a
crédibles,
ou pas
crédibles environnementalement et viables économiquement,
de votre point de vue,
alors,
il y en a ou pas,
alors on l'arrête, et quand il n'y a pas d'alternative, on ne l'arrête pas. Et ça dépend des usages, ça dépend des utilisations qu'on en fait.
Et donc, pas forcément d'arrêt à la fin de l'année.
Mais c'est un arrêt quand il y a une alternative, et quand il n'y a pas d'alternative, à ce moment-là, on continue. Juste un exemple très précis.
Non, on n'a plus le temps, je suis désolé.
Mais alors vraiment. En un mot, aujourd'hui, vous l'utilisez, par exemple, ce désherbant, pour capter du CO2 dans le sol, ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Si demain, vous arrêtez de le faire, vous émettrez des dizaines de milliers de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, avec un impact sur le changement climatique. Tout ça, c'est compliqué, et on le fait avec pragmatisme.
Merci Julien Denormandie d'être passé dans les studios de France Inter. 13h46.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Mémorial en Russie, en danger et plus que cela.
Le plus grand centre d'études sur les crimes de masse en URSS dissous par Poutine.
Le feuilleton, nous irons à Cholet, les déserts médicaux, et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Elle fut longtemps mannequin, reine des défilés, des couvertures de magazines. Elle est maintenant réalisatrice et actrice. Laetitia Casta est à votre micro aujourd'hui. Elle est de retour au théâtre à partir de demain au Rond-Point à Paris.
Dans la pièce Claras, qu'il prélude et fugue, un seul en scène où elle incarne la musicienne prodige roumaine Clara Askill, star de l'après-guerre et légende du piano.
Elle avait quelque chose de l'ordre de l'enfance, un cœur d'enfant, une pureté, une musicalité incroyable, une technique dingue. Et ce qui est formidable chez elle, c'est que tout ce qu'elle a traversé de difficile, dans sa musique, ça ne se ressentait pas. L'exil, les deux guerres, la maladie. Elle va porter un corset, elle va avoir une scoliose. Pendant 4 ans, elle va être enfermée dans un plâtre. Elle ne pourra pas jouer de piano. Mais grâce au conseil de Monsieur Robert, un professeur qu'elle a connu, elle va pouvoir reprendre le piano après 4 ans, à la fin de la guerre, et sa musique n'aura pas été touchée. Et c'était une grande sensible, c'est surtout sa sensibilité qui est belle, quoi.
Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire.
Juste une ivresse pour que l'on cesse de boire, une cicatrice pour que l'on puisse y voir.
Une cicatrice pour que l'on puisse y voir.
Que l'on aille nos fiançailles.
Ou que l'on aille nos fiançailles.
Ce qui est beau, c'est de laisser transparaître, pour moi, sa fragilité.
Juste une audace pour qu'on s'embrasse un peu.
Que la cicatrice en devienne quelque chose de fort et pas une chose qu'on doit cacher, justement.
Une friandise pour qu'on attise le feu.
Une friandise pour qu'on attise le feu.
Où que l'on aille nos fiançailles. Fuerte, fuerte, y con la muerte voy a hacerte una canción. Dentro, dentro, y con el viento me atormento sin razón. O que lo hay, lo fiançai.
Et c'est donc une chanson de Nilda Fernandez, qui est morte en 2019, qui a choisi de nous faire écouter Laetitia Casta, Frédéric.
Une chanson qu'il a coécrite avec son frère et fait paraître en 1991 sur son deuxième album, lequel lui vaudra une victoire de la musique. Victoire de la révélation, variété masculine.
C'est une chanson que j'aime énormément. C'est une voix aussi particulière. Un être particulier qui est parti vite. Je le trouvais beau. Il y a quelque chose chez lui de sexy, mais d'extrêmement féminin. Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose d'à part. Et j'aime bien tout ce qui est différent, voilà. Et j'aime bien les chansons où on ne sait pas trop où on va, ce que ça raconte, où l'imaginaire travaille.
Vous, vous comprenez quoi dans cette chanson ?
Cette chanson me parle de délicatesse surtout, c'est ce qui est de plus en plus rare. J'aime pas tout ce qui est cru et direct. Ça ne m'intéresse pas, j'aime bien que ce soit proposé, effleuré. Et on est dans du poème en même temps. Et moi, je trouve ça hyper sensuel.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'enfantin également ? Nos fiançailles, quand on est petit, qu'on est amoureux, qu'on a une fiancée, un fiancé.
Oui, puis j'ai l'impression qu'on parle des fiançailles, mais pas dans le côté justement paperasse. Les fiançailles, on peut avoir créé des liens très forts comme ça avec des personnes sans spécialement se fiancer avec la bague et tout, mais dans les mots, des choses qu'on se dit à jamais, qui resteront gravées à jamais.
Vous, ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé d'écrire quelque chose sur un arbre. Dans l'écorce d'un arbre, cette chose est restée là et avait presque un pouvoir un peu comme ça, au long terme. Ouais, c'est inscrit, quoi.
À la mi-juillet, quand on soupire aux portes, quand le cœur nous emporte et qu'on a mal aux reins, et qu'on se dit que rien n'est aussi prestigieux que les sommets des jeux, quand on se dit peut-être ce que l'on voudrait être juste au-dessus des règles, quand on se dit qu'on peut être un aigle.
Nilda Fernandez, Nos fiançailles. C'était donc Frédéric, le choix de Laetitia Castin.
Que l'on retrouve sur la scène du Théâtre du Rond-Point à Paris dans la pièce Clara Askill, prélude et fugue à partir de demain et jusqu'au 23 janvier.
Pour le feuilleton de Puisière, grâce à Sarah Guibaudot, nous sommes à Cholet, désert médical, comme il en existe tant en France. Et ce service médical de proximité que nous vous présentions hier, il a ouvert il y a 10 mois. C'est un groupe mutualiste qui est derrière cela. 12 généralistes à la retraite ont repris du service quelques jours par mois. Et c'est l'une de ces médecins qu'on entend aujourd'hui avec Sarah. Elle n'avait trouvé personne pour reprendre son cabinet libéral. Et elle parle de cet épisode encore avec beaucoup d'émotion.
Je suis le docteur Marchand. J'ai exercé dans un petit village au nord des Deux-Sèvres. Et j'ai pris ma retraite à 68 ans, sans successeur. Donc j'ai abandonné mes patients. C'est des gens qu'on a vus pendant 38 ans. Mais on leur dit, j'ai personne pour me remplacer et il faut que vous trouviez un autre médecin. C'est pas très facile.
J'imagine que vous avez cherché ce successeur.
Oui, bien sûr, cherché, fait des annonces, etc., etc., mais sans succès.
Donc à 68 ans, vous prenez votre retraite et quelques mois plus tard, vous rempilez ici au centre de santé de Cholet.
Oui, parce qu'en fait, quand on avait ce métier pendant tant d'années, moi j'étais contente de garder un petit pied dans la médecine. Alors avec beaucoup moins de contraintes, c'est ce qui m'a fait rempiler, comme vous dites. Je faisais des horaires de 8h à 22h le soir. Ben, il est vrai qu'ici c'est confortable. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc je vois que c'est la première fois que vous venez ici.
Tout à fait. Ah,
donc ça c'est la dernière analyse qu'elle a
faite.
C'est
la dernière, oui, tout à fait.
Et donc tout ce qui concerne l'ophtalmo, le cardio, tout ça, ça a été fait quand ? Parce que là du coup vous avez...
L'ophtalmo, j'ai rendez-vous en début d'année, février là.
Parce que vous n'y allez pas tous les ans. L'ophtalmo c'est tous les ans, quand on a du diabète, tous les ans.
Du coup, j'ai changé d'ophtalmo parce que c'est impossible d'avoir rendez-vous pareil. Et le cardio, j'ai jamais fait de cardio depuis très longtemps.
Ah oui, donc ça aussi.
Bah ouais.
Donc tout est à revoir.
Hein. Bah, je crois, ouais.
Et pardon, mais trouver des ophtalmos et des cardiologues.
Ça, c'est difficile à trouver aussi. Hein.
En ophtalmo, en dermato, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Bon, vous avez retiré le manteau. Donc là, vous avez 13,5, 8,5.
D'accord.
Hein, donc c'est correct. Hein.
Comment vous expliqueriez-vous le manque de médecins actuellement dans une bonne partie du territoire? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas formé assez de médecins? Est-ce que c'est parce que les jeunes médecins ne font plus autant d'heures qu'avant ou restent dans les villes?
Alors, je pense qu'il y a assez de médecins. Je pense qu'ils sont très bien formés. Ils savent autant de choses que nous, voire beaucoup plus. Ils ont une vie différente. Il faut se dire que quand même un étudiant en médecine, pendant plus de 10 ans, il vit dans une ville. Et tout d'un coup, vous allez lui dire, voilà, je vais te parachuter dans une petite commune rurale où il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de resto, on ne va pas aller boire un verre, voilà. Les parachuter comme ça, non, ça ne marchera pas. Deuxièmement, il y a des horaires, effectivement. Nous, on a travaillé comme ça. On n'avait pas le choix. Donc, ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à 22h le soir, et je les comprends.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Est-ce qu'il faut les forcer?
Non. Là, pour le coup, vous allez faire un médecin aigri, ça, c'est déjà très mauvais d'avance.
Bonjour, vous avez rendez-vous? Je vais espacer un peu d'attente.
Au-delà du nombre de patients sans médecin traitant, il y a aussi un certain nombre de médecins qui sont en âge de prendre leur retraite. Donc, le sujet, il est critique, mais il va le devenir de plus en plus. Sandrine Boyer, je suis directrice générale du pôle accompagnement et soins de Vif 3 Pays de la Loire, qui est une union mutualiste. Et donc la jeunesse de ce nouveau service est venue de la mutuelle La Choletaise qui a été très sollicitée par ses adhérents qui ne trouvaient pas de médecin traitant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de renoncements aux soins. Quand vous ne trouvez pas de médecin, vous différez, vous bricolez, vous cherchez à vous soigner seul ou aller aux urgences quand vraiment c'est trop critique. Dans la patientèle de ces centres de santé, il y a une quote-part non négligeable de populations précaires parce que c'est les premiers touchés dans la crise, c'est les premiers touchés par un système à un moment donné qui les exclut.
Le feuilleton Sarah Guibaudot, réalisation Lucie Lemarchand, troisième épisode demain.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Dans la Russie de Vladimir Poutine, la Cour suprême vient de dissoudre l'organisation Mémorial dédiée aux victimes du régime communiste. Pour comprendre l'action de Mémorial, zoom sur un site qu'elle a découvert en Carélie, au nord de Saint-Pétersbourg.
Sandormok, c'est un hameau dans une forêt de sapins. Près duquel 6000 victimes de la Grande Terreur de 37-38 ont été jetées dans des fosses communes. Alors la Grande Terreur, on se souvient des méga procès qui avaient été intentés par Staline à des personnalités civiles et militaires. Mais là, plus de 6000 personnes sont enterrées. Parmi les morts ont d'abord été localisés les 1111 qui avaient été prélevés dans le grand camp des îles Solovki au large de Saint-Pétersbourg. C'était en effet généralement des cadres de l'armée rouge, des administrations et des différentes nationalités que l'URSS entendait fédérer pour ces personnes. Pas de procès, des tribunaux de rencontre, des verdicts à la chaîne, il fallait faire du chiffre. Mais pour arriver aux 6071 identifiés à Sandormok, il a fallu ajouter à ses membres des élites d'autres détenus, d'autres prisons, et puis 2338 habitants de Carélie, de simples habitants qui furent emportés par le mouvement de purification de la société lancé par Staline.
Alors, Mémorial a été fondé l'année de la chute du mur de Berlin, 89. C'est une organisation décentralisée. C'est important, ces responsables de Carélie qui ont localisé les fosses communes ont fait appel au gouvernement de la République de Carélie, République fédérée, pour entreprendre les fouilles.
Et à l'époque, on était encore à l'époque d'Yeltsin, et la coopération s'était établie de façon correcte. L'historien local de Mémorial, c'était Yuri Dmitriev, qui va tenir tous les rôles, découvreur, archéologue en chef, dépositaire des noms qu'il identifie et consigne dans des livres du souvenir, organisateur de la mémoire. Chaque nationalité, quand elle peut nommer ses morts grâce à lui, érige un monument et tous commencent à englober Sandormok dans une mémoire plus grande. Il y a un livre qui vient de paraître en français d'Irina Flieg et qui est consacré à l'endroit et qui estime que 750 000 personnes ont été exécutées pendant la Grande Terreur, soit 1600 par jour sur 2 ans.
La Carélie, grâce à Mémorial, est ainsi devenue le secteur pionnier de l'étude de la Grande Terreur.
Ce qui a été intolérable à Poutine, qui veut restaliniser l'histoire de son pays. Staline, c'est le guide intouchable qui a gagné la guerre patriotique contre les nazis. En 2014, année de l'annexion de la Crimée, la délégation ukrainienne ne peut pas rejoindre le pèlerinage du 5 août qui est organisé à Sandormoc. Et toutes les années qui suivent, toutes sortes d'avanies tombent sur les organisateurs. Une société d'histoire militaire de la Russie, créée par Poutine, s'en vient faire un prélèvement archéologique pour tenter de faire croire que les morts des fosses sont des prisonniers soviétiques exécutés par les Finlandais dans la guerre qu'ils ont menée dans les parages en 1941-44.
Oui, au fond, le régime voudrait qu'on dise Sandormoc, c'est ce lieu discuté.
Et qu'on ajoute « découvert de surcroît par un pédophile ». Youri Dmitriev, l'historien de Mémorial, a en effet une fille adoptive, handicapée, dont les médecins lui avaient demandé de suivre l'évolution par des photos dos nu, torse nu. Ces images, saisies sur l'ordinateur de l'homme, permettent son arrestation pour pédophilie. Avril 2018, le tribunal de la capitale de la Carélie la quitte. Juin, la Cour suprême de Carélie casse le jugement. Un autre est manigancé, 3 ans et demi de prison, insuffisant pour la Cour suprême de Carélie, qui intervient de nouveau. Le compteur marque 15 ans de détention depuis le 27 décembre, la même semaine. Mémorial fédéral a été interdit et dorénavant à Sandormoc, on ajoute à la lecture de la liste des morts de 37-38, celle des personnes arrêtées depuis 2014.
Et le livre d'Irina Flieg consacré à Sandormoc, traduit par Nicolas Werth, président de Mémorial France, est publié aux Belles Lettres. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré dans les minutes à venir, quel programme?
Je reçois une gardienne de la nature, elle s'appelle Marine Calmet.
À tout de suite avec la gardienne.